Nous poursuivons une série de quelques dimanches où nous parlons de ce que ça implique d'être disciple de Jésus. Une série que nous avons appelée « À contre-courant ». Et je vais donc lire ces trois versets, Matthieu 6, donc à partir du verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Amen. Le choix d'un investissement peut avoir des effets considérables. Je lisais l'histoire d'un jeune artiste du nom de David Cho, qui a été embauché au début de Facebook pour réaliser des tags artistiques au siège de Facebook en Californie. Et ça se passait entre 2005 et 2007. Et à l'époque, le réseau Facebook était encore à ses débuts, c'était pour l'essentiel un réseau d'étudiants, pas particulièrement rentable. Et au moment d'être rémunéré, David Cho a demandé s'il pouvait être, plutôt que d'être payé directement, d'être payé en actions de la boîte. Bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, ces actions, elles valent des centaines de millions de dollars. Exemple inverse, alors moins spectaculaire, mais je pense à mon grand-oncle, du côté paternel, qui avait investi dans le pétrole iranien dans les années 70. Pas mal d'argent. Et puis il y a eu la révolution islamique en 1979, il a tout perdu. Et a vécu dans des conditions assez difficiles, matériellement parlant, le reste de sa vie. Le texte de ce soir pose la question de nos investissements. Alors peut-être d'emblée vous vous dites, investissement, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Et on va y venir bien sûr, on va voir ce que Jésus nous en dit. Et à la lumière de ce petit texte, on va se poser deux questions. Où est ton trésor? Où est ton cœur? Deux questions qui découlent, je crois, assez naturellement de ce texte. Donc, où est ton trésor d'abord et ensuite, où est ton cœur? Où est ton trésor? Alors d'abord, juste un mot du contexte. Nous sommes là au début du ministère public de Jésus, encore vers le début de ce ministère, et les chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu nous rapportent un temps d'enseignement assez développé que Jésus a apporté à ses disciples et qu'on appelle le sermon sur la montagne, traditionnellement. Au début du chapitre 5, on apprend que Jésus, qui avait commencé donc il y a peu son ministère public, qui avait guéri des malades en particulier, qui avait apporté un enseignement à de grandes foules déjà, eh bien Jésus va prendre un petit peu de recul avec ses disciples, avec ceux qui, d'une façon ou d'une autre, se sont déclarés pour lui déjà. Et il va se retirer sur une montagne, nous dit l'évangile de Matthieu, pour un temps d'enseignement plus développé. Et dans ce sermon, il va justement enseigner à ses disciples ce que ça implique, dans plein de domaines, d'être son disciple. Et alors c'est dans ce célèbre discours, le sermon sur la montagne, qu'on trouve plusieurs des paroles les plus connues de Jésus. Par exemple, la prière qu'on appelle le Notre Père, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, eh bien, elle est là dans le sermon sur la montagne. Ou bien des formules choc qui sont bien connues. Vous êtes le sel de la terre. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Ou bien encore, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et on pourrait en citer bien d'autres. Donc Jésus, dans ce discours, dans ce sermon, donne en quelque sorte la feuille de route d'une vie vécue à contre-courant de la société ambiante, du monde. Une vie marquée par un retour à Dieu, à ses valeurs, à ses projets, et un renoncement, par conséquent, aux valeurs dominantes de la société, quelle que soit cette société en fait. Puisque, comme Clifford nous l'a bien dit tout à l'heure, la Bible nous dit que au-delà des cultures, avec leurs avantages et leurs inconvénients, au-delà des périodes historiques, il y a un problème humain fondamental qui est cette tendance à se détourner de Dieu qu'on appelle le péché. Et donc voilà le contexte de ces trois versets. ce sermon sur la montagne. Et c'est dans ce contexte que Jésus va aborder le thème des investissements, ou pour reprendre ses mots à lui, ses trésors, les trésors. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais de temps en temps, c'est rare, mais de temps en temps, mon banquier m'appelle. Allez, deux ou trois fois dans l'année. Je ne pense pas faire partie de ces gros clients, pour être honnête. Mais bon, il faut faire un point. C'est toujours ce qu'ils disent. Hein. Monsieur Sanders, ce serait bien de faire un point sur vos placements, sur notre épargne, sur voilà, pour voir si nous faisons le meilleur usage de nos ressources, pour nous-mêmes et puis un petit peu pour la banque aussi. Qu'est-ce qui va le mieux rapporter à court terme, à long terme, etc. Eh bien, dans notre texte, c'est un petit peu comme si Jésus, en bon conseiller en investissement, faisait le point avec ceux qui se déclarent ses disciples. Et il fait le point donc avec ceux dans quoi nous investissons. Beaucoup d'entre nous, je pense ce soir, nous déclarons disciples de Jésus. Sans doute pas tous, mais beaucoup d'entre nous. Et donc, ça nous concerne au premier chef, et les autres sont concernés aussi, puisque si vous êtes là, j'espère que c'est parce que vous pourriez au moins vous poser la question de devenir disciple de Jésus. Jésus donc invite ses disciples à réfléchir à leurs investissements. Et le message qu'il adresse est clair. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs, ni voler. Alors on doit poser la question, bien sûr, de quoi est-ce que Jésus parle exactement ici lorsqu'il parle de trésors ? Est-ce que de façon très terre à terre, il parle de nos richesses ? Est-ce qu'il s'exprime en termes plus larges ? Et on peut hésiter un petit peu, en tout cas à première vue. D'un côté, c'est vrai, il y a cette référence au mythe, à la rouille, au voleur. Ça fait bien penser à des richesses matérielles. Mais on peut penser aussi que Jésus vise au-delà de cela. Il vise cela, mais au-delà. Parce que quand il invite ses disciples à s'amasser des trésors dans le ciel, il semble assez clair que, en tout cas au bout du compte, ce qu'il vise, ce n'est pas la destinée de notre argent, mais c'est plus que cela. Et le ciel, dans le propos de Jésus, tout au long de ce sermon d'ailleurs, c'est une façon, et tout au long de l'évangile de Matthieu, le ciel, c'est une façon de parler de Dieu. Et donc il s'agit d'amasser des trésors dans le ciel, bien sûr, il s'agit de s'amasser des trésors auprès de Dieu. Et ce qui intéresse Dieu dans l'absolu, ce n'est pas notre argent, mais c'est nous-mêmes, c'est tout notre être. Mais on va voir que l'un et l'autre sont liés. L'argent influe sur notre manière d'être. Et en réalité, je crois que ce n'est pas la peine de choisir entre un sens matériel et un sens plus large. Jésus clairement inclut en premier lieu la question de nos finances, de nos richesses matérielles, mais le texte nous invite tout à fait à penser qu'il élargit la question pour évoquer plus largement nos ressources, non seulement en argent, mais aussi en temps, en énergie, en initiative, etc. Tout ce qui fait nos priorités, tout ce qui nous mobilise. Et dans les deux cas d'ailleurs, qu'il s'agisse de nos investissements matériels, financiers, ou de nos investissements de vie plus larges, eh bien ce que dit Jésus n'a rien perdu de son actualité. Prenons d'abord les richesses matérielles, l'argent, tout bêtement, et tout ce qui va avec, la consommation. Le fait est que ces richesses sont toujours incertaines, soumises à une quantité d'aléas, de facteurs que nous ne maîtrisons pas. Alors si on pense à l'évolution un peu des marchés, on note que ce qui était en plein, je ne suis pas du tout spécialiste, hein, mais j'espère ne pas trop me tromper, mais ce qui était en plein boom à la fin des années 90, on était en pleine explosion d'Internet, les startups qu'on appelait les dot-com, eh bien elles se sont abaissées, voire effondrées, au milieu des années 2000, début-milieu des années 2000. Le boom immobilier du début des années 2000 s'est soldé, et on le sait, par l'effondrement de ce marché, la fameuse crise des subprimes à la fin des années 2000. Tout ce qui semble un investissement précieux à un moment, il y a de fortes chances que quelques temps plus tard, ça paraisse plus du tout si précieux, voire comme une grave erreur. Et même les investissements qui semblent les plus sûrs ne le sont pas tant que ça. Par exemple, l'immobilier, a priori, on se dit ça, c'est un investissement qui est sûr, mais on a vu ce qui en est advenu. Ça a certes un petit peu moins touché la France, mais quand même, ça a eu un impact mondial. Et puis, qui sait quelles nouvelles régulations seront imposées ? Quelles nouvelles substances seront découvertes, comme l'amiante il y a un certain temps, qui fait que peut-être tout d'un coup, ces biens vont perdre toute valeur. Qui sait quels événements politiques tragiques pourraient faire que ce marché-là s'effondre également. Qui sait ? On peut noter aussi que d'un point de vue général, les biens qui sont tellement au centre de notre consommation perdent très rapidement de leur valeur. Je vais essayer de retrouver la bonne feuille. Voilà, c'est authentique tout ça, c'est authentique. À quel point donc les biens qui sont au premier plan de nos ressources sont éphémères ? Qui se rappelle du premier iPhone ? Il paraissait superbe, n'est-ce pas ? Il paraissait absolument ultra-moderne. Alors en fait, les iPhones, j'avoue qu'ils ne sont pas trop mal conservés, mais quand même. Aujourd'hui, on en est au 7, on a un exemple là. Vous pourrez aller voir Thomas tout à l'heure pour bien le regarder. Aujourd'hui, on en est au 7 qui paraît magnifique, mais dans 10 ans, l'iPhone 7, il paraîtra sûrement complètement ringard et dépassé. Une voiture qui coûte tellement cher et qui, quand elle sort tout juste, paraît belle, comme une Peugeot 307, par exemple. 10 ans plus tard, j'en sais quelque chose, c'est plus la même chose. C'est cher à entretenir, on a des problèmes sans cesse. Les appartements des années 70, qui paraissaient ultra modernes, les immeubles des années 70, qui paraissaient fonctionnels, modernes à l'époque, nous paraissent affreux aujourd'hui. Les choses perdent de la valeur, et perdent de la valeur à une vitesse spectaculaire. Donc ce que dit Jésus est très vrai des richesses matérielles, aujourd'hui encore, elles sont particulièrement incertaines. Mais à vrai dire, c'est vrai aussi des autres investissements non matériels. On peut s'investir à fond dans un sport et avoir demain une blessure ou une maladie qui nous oblige à arrêter du jour au lendemain. On peut s'investir dans une cause politique qui paraît tellement juste, mais quand ceux que nous soutenons arrivent au pouvoir, la déception est quasi certaine. Quasi certaine, au moins dans une certaine mesure. Il y aura des compromissions, il y aura des trahisons, il y aura des reniements, il y aura des échecs. On peut même s'investir dans quelque chose qui peut paraître tout à fait louable et qui l'est louable, comme sa famille. Quoi de plus juste que d'investir dans sa famille ? Et c'est une bonne chose de le faire. Mais même là, le retour sur investissement, si on ose dire, ne sera pas forcément au rendez-vous. L'enfant pour qui on a tant fait décidera peut-être de faire des choix qui nous attristent profondément. Ou même, qui sait, de rompre la relation avec nous. Les parents, si sûrs, si fiables, s'aigriront peut-être avec l'âge, qui sait, ou perdront de leur lucidité. Alors, il ne s'agit pas de plomber l'ambiance à tout prix, d'être fataliste, ou de dire qu'il faut négliger ces domaines de la vie, pas du tout, mais prendre conscience que même là, même dans ces bonnes choses, les risques et les aléas sont partout. Alors Jésus nous demande, où est votre trésor ? Où est-ce que vous investissez en priorité ? J'essaie de m'y retrouver. Et il nous invite donc à faire le point. À faire le point d'abord, clairement, sur le plan matériel. Comment utilisons-nous nos ressources financières ? Qu'elles soient modestes ou qu'elles soient abondantes ? Comment les utilisons-nous ? Oui, bien sûr, il est normal qu'une part importante de nos revenus, a fortiori s'ils sont modestes, couvre les besoins du foyer au quotidien. C'est normal, oui. Il est normal aussi que nous soyons responsables en mettant de l'argent de côté, en ayant une certaine épargne. Et oui, il est légitime également, je crois qu'on peut le dire, que la vie inclut des divertissements et des loisirs, et que ceux-là ont parfois un coût. Mais est-il juste que cet ensemble de choses sollicite l'essentiel, voire la totalité de nos ressources. Et je pose la question de façon très ouverte, je m'inclus dedans. Quelle place occupe le ciel dans nos investissements ? Le reste du monde fonctionne logiquement en termes d'enrichissement personnel, même quand les gens ne sont pas terriblement matérialistes forcément. Mais voilà, j'ai plus d'argent, je vais pouvoir m'acheter plus, je vais pouvoir investir plus, je vais pouvoir économiser plus en vue de tel achat. Mais est-il juste, à la lumière de ce que nous dit Jésus, de vouloir toujours plus, toujours le modèle au-dessus, toujours l'expérience la plus forte et la plus coûteuse, toujours la qualité supérieure ? Pour être très concret, est-ce qu'il est juste, si nous sommes disciples de Jésus, que notre premier réflexe, si nous recevons une prime, une augmentation, un héritage peut-être, ça soit de réfléchir aux biens matériels que nous pourrions acquérir en plus? Et si nous investissions dans le ciel, en soutenant l'Église, en soutenant la mission, l'implantation d'Église, la formation biblique, l'hospitalité, l'aide aux démunis? Alors, pas tout ça pour chaque personne, sans doute, mais que nous ayons à cœur d'investir dans le ciel. Et on peut veiller aussi à ce que l'Église locale, à qui on donne, je pense qu'il est juste de donner en priorité à l'Église locale, elle ait à cœur aussi de couvrir ces différents domaines. Et ça s'applique bien sûr non seulement à notre argent, mais aussi à notre temps. Alors oui, encore une fois, nous devons travailler pour gagner notre vie, et ça prend beaucoup de temps, c'est normal. Oui, nous devons nous reposer, c'est normal. Mais faisons le point. Est-ce que nous utilisons notre temps au mieux en vue de ce qui est éternel? Est-ce qu'il y a des choses qui nous prennent énormément de temps et d'énergie, si vraiment on regarde de plus près, alors que le retour sur investissement du point de vue de l'éternité est très faible, voire négligeable? Dans chaque culture, il y a des idoles en quelque sorte particulières qui nous incitent à ne pas investir dans le ciel. Alors si je pense à la culture française, on valorise particulièrement, je pense, la sécurité. Et c'est peut-être plus l'obsession de la sécurité financière, ce sentiment qu'il faut suivre toute une série de règles auxquelles il ne faut surtout pas déroger. Telles études, tel diplôme, tel métier, telle reconnaissance sociale, tel niveau de salaire, tel achat immobilier, à tel moment de la vie, avec tel taux. Et c'est plus ça finalement que le désir en absolu de s'enrichir qui mobilise les gens et qui nous pousse à ne pas investir dans le ciel, mais à investir vraiment sur la terre. Et sans s'en rendre compte, ces choses deviennent beaucoup plus importantes pour nous que l'œuvre de Dieu dans le monde. Jésus, il me semble, invite ses disciples à l'audace d'un autre investissement, un investissement prioritaire dans les choses qui dureront éternellement. Quitte à surprendre, être disciple de Jésus, c'est faire des choix surprenants. J'ai à l'esprit des amis qui, alors que des amis qui gagnent bien leur vie, alors qu'ils avaient encore leurs deux enfants à la maison, deux enfants adolescents, ils ont vendu leur grande et belle maison pour en acheter une plus modeste. Alors, ce n'était pas une cabane, hein, c'était suffisant, tout à fait suffisant, mais nettement plus modeste que la première. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont demandé, est-ce que nous avons vraiment besoin de cette très belle maison ? Est-ce que ça ne nous permettrait pas, en ayant des paiements mensuels nettement inférieurs, de pouvoir donner plus pour l'œuvre de Dieu ? Et ça avait tellement surpris qu'il y avait eu un article dans la presse locale qui leur avait été consacré. Donc un très beau témoignage. C'est un exemple. Ça ne se passera pas comme ça pour tout le monde. On pourrait décliner ça de bien des manières. Mais Dieu est à l'œuvre dans le monde. Chaque jour, des hommes, des femmes, de toute nation se tournent vers Jésus-Christ pour connaître auprès de lui le salut et la vie éternelle. Et Dieu ne nous invite pas à le regarder faire assis sur nos canapés en mangeant nos Pringles. Il nous invite à être acteurs dans cette mission. Il nous appelle à être ceux qui seront le sel de la terre, ceux qui changent le goût du monde, ceux qui vivent autrement, à contre-courant. À contre-courant parce qu'ils savent qu'un jour le courant va changer de sens. Ils savent qu'un jour il ne restera plus que les choses de Dieu. Où est notre trésor? Peut-être que nous devrions particulièrement y réfléchir cette semaine et prier à ce sujet, moi compris. Maintenant, j'en viens plus brièvement à la seconde question. Où est ton cœur? Et je voudrais relever quelque chose de très déstabilisant dans ce texte. Je ne sais pas si vous l'avez relevé aussi. Verset 21, Jésus dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Autrement dit, là où tu investis, eh bien c'est là que seront tes valeurs et tes priorités. C'est très déstabilisant parce que ce qu'on pense spontanément et ce qu'on aimerait entendre spontanément, c'est l'inverse. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Autrement dit, on a des valeurs, et pour nous qui sommes disciples de Jésus, n'est-ce pas, ces valeurs sont bien claires, Jésus est en première place dans notre vie, et donc logiquement, on peut penser que notre trésor suivra, que nous allons investir dans ces valeurs-là. Mais est-ce vraiment le cas? Question ouverte. Peut-être que oui, mais est-ce vraiment le cas? Or, Jésus dit les choses dans un ordre beaucoup plus inconfortable. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dis-moi où sont tes richesses et je te dirai qui tu es. Et je te dirai où est ton cœur. Comme le dit une expression anglaise, les actes parlent plus fort que les paroles. Jésus nous dit que, quoi que nous disions, ce sont nos choix d'investissement, pas seulement financiers, mais plus largement, qui montrent où sont nos vraies valeurs. Je peux dire autant que je veux que ma priorité c'est Jésus, mais si tous mes efforts et toutes mes ressources sont consacrés à mon bien-être, à mon succès, à mes loisirs, à ma réputation, à mon confort, eh bien mon cœur n'est pas là où je croyais qu'il était. Et ça laisse entendre que peut-être je ne suis pas vraiment disciple de Jésus, ou en tout cas, je n'agis pas comme si je l'étais. C'est un peu comme si, c'est facile de dire par exemple que j'aime ma femme et mes filles, et c'est vrai, je vous rassure, c'est vrai. Mais si je ne passais jamais de temps avec elles, si je ne leur accordais jamais la priorité, si je n'étais jamais prêt à risquer mon confort ou ma réputation pour elles, que pourrait bien vouloir dire cet amour finalement? Au final, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Maintenant, il y a aussi une note d'espoir dans ce texte, et quelque chose qui peut nous, après qu'on ait bien été interpellé, et je crois qu'il le faut, la parole de Jésus doit nous interpeller fortement, une note d'espoir, c'est que la deuxième partie de la phrase est au futur. Là aussi sera ton cœur. Jésus ne nous parle pas d'une réalité figée, mais d'une orientation, d'une dynamique. Là où est notre trésor, là où nous investissons, c'est là que sera notre cœur. Et ça veut dire qu'à force d'investir dans tel ou tel domaine, nous y engagerons de plus en plus toute notre énergie, tous nos moyens, toutes nos valeurs. Et ce futur indique qu'il est temps, si la direction n'est pas la bonne, qu'il est temps encore de changer la dynamique. Et c'est pour ça que Jésus dit cela. C'est bien qu'il est encore temps d'entendre cette parole. S'il change de trésor, ses disciples, s'ils investissent ailleurs, leur cœur suivra. S'ils détournent leurs investissements de ce qui est éphémère et périssable pour les réorienter vers tout ce qui relève de Dieu, le ciel, alors ils peuvent s'attendre à ce que leur cœur suive. Imaginez qu'un jour vous recevez un héritage, un portefeuille d'actions de quelqu'un qui aurait investi à fond dans les aliments pour bétail. À fond dans les aliments pour bétail. Alors je prends cet exemple en l'hommage à cette entreprise Sanders Aliments pour Bétail. Aucun lien de parenté. Mais imaginons, eh bien, vous risquez de vous intéresser tout d'un coup aux aliments pour bétail. Même si ce n'était sans doute pas un centre d'intérêt particulier auparavant, vous allez suivre l'actualité du marché. Parce que vous avez beaucoup investi dedans. Et donc vous allez vous en préoccuper. À combien plus forte raison, quand on commence à investir dans l'œuvre de Dieu, dans le monde, aux besoins de son Église et des églises diverses, locales, aux besoins de la mission, eh bien, c'est quasiment impossible de ne pas s'y intéresser. Si c'est là que va votre trésor, eh bien, forcément, vous allez vous y intéresser. Et puis, comme c'est l'œuvre de Dieu, eh bien, naturellement, on peut penser que vous allez prier. Vous mobilisez dans la prière et dans l'action pour ces choses dans lesquelles vous investissez. Et donc, dans un premier temps, l'invitation de Jésus à regarder d'abord où est notre trésor et d'en déduire où est notre cœur, c'est déstabilisant. Mais cet ordre surprenant est aussi libérateur pour nous, je crois. Parce que si on a du mal à se motiver pour l'œuvre de Dieu, si on a du mal à se tenir informé, si on a du mal à prier, même à s'y intéresser, et reconnaissons que, je pense nous tous, il y a des moments au moins où nous avons du mal, si on constate que spontanément on est attiré par d'autres investissements, eh bien Jésus nous donne une solution simple. Là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Investissez dans le ciel. Et donc Jésus ne nous invite pas à trouver en nous une sorte de force mystique qui nous permettent de nous intéresser à son œuvre. Il ne nous demande même pas d'être au top spirituellement. On l'est rarement, si on est honnête. Au top. Mais il nous invite simplement à réinvestir nos ressources, qu'elles soient en argent, qu'elles soient en temps, qu'elles soient en énergie, vers ce qui est prioritaire. Et il nous dit, il nous promet que notre cœur suivra. Et ça, c'est libérateur. Alors, à quoi ça va ressembler pour le Parisien d'aujourd'hui ? Alors, je l'ai déjà dit, avec des mots différents, Jésus ne nous invite pas à clore nos comptes bancaires, alors peut-être certains quand même, mais pas tous, je pense, ne nous invite pas, je crois, à nous défaire d'absolument tout dans notre quotidien, il ne nous invite pas à nous retirer dans un monastère. Il ne nous invite pas non plus à nous dire, ok, investir dans le ciel, donc je vais multiplier les activités d'église dans tous les sens jusqu'à l'épuisement. Je ne pense pas que ce soit ça non plus. Mais il nous invite à une réflexion essentielle. Quelles sont nos priorités ? Quel est mon premier réflexe lorsqu'il s'agit d'investir mon argent, mon temps, mon énergie ? Est-ce que par exemple, je prends un exemple très concret, nous donnons à l'Église quelques euros à la fin du mois quand il nous reste quelque chose, comme un bonus une fois qu'on a réglé tout le reste, les factures, le loyer, mais aussi les loisirs, les divertissements, etc. Et puis s'il reste un petit quelque chose, tiens, ça pourrait aller à l'Église. Ou est-ce que c'est pour nous un investissement prioritaire ? Et peut-être quelque chose que nous faisons plutôt au début du mois, comme on paye son loyer, comme on paye ses factures. Est-ce que, lorsque nous réfléchissons au temps libre dont nous disposons, et peut-être que c'est très peu pour certains, peut-être que pour certains, le temps libre, c'est très peu, mais est-ce que nous pensons, alors que nous prévoyons ce temps libre, est-ce que nous pensons à trouver le temps nécessaire pour prier, pour prendre des nouvelles des frères et sœurs, peut-être pour apporter une aide dans tel ou tel domaine dans l'Église ? Il ne s'agit absolument pas de culpabiliser ici. Et je le rappelle, je m'adresse à moi-même aussi. Et je sais que beaucoup dans cette Église investissent dans le ciel et ont beaucoup investi dans le ciel. Simplement, il me semble que les paroles de Jésus nous invitent à nous reposer régulièrement ces questions. Où est notre trésor ? Où est notre cœur ? Je vous invite à prier. Notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour ton Fils Jésus-Christ, celui que tu nous as envoyé pour être notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui nous enseigne aussi et qui nous apprend à vivre d'une manière qui te plaît. Merci parce que lui qui est mort pour nous est aussi ressuscité et qu'il manifeste sa présence aujourd'hui en nous par son esprit en attendant de le revoir un jour face à face. Il continue à nous instruire par sa parole. Nous te remercions pour ces paroles un peu plus dures parfois de Jésus qu'on peut avoir tendance à vouloir évacuer, mais qui nous font du bien parce qu'elles nous ramènent à l'essentiel. Seigneur, donne-nous à chacun en conscience de réexaminer nos investissements, quels qu'ils soient. Et aide-nous, Seigneur, et merci parce que si nous constatons des défaillances, et c'est presque certain que nous en constaterons au moins quelques-unes, aide-nous, Père. Merci parce que nous savons que tu es là pour nous aider, non pas pour nous condamner, parce que cette condamnation, Christ l'a déjà prise sur lui à la croix, non pas pour nous condamner, mais pour nous aider à changer d'orientation de la vie, à vivre autrement, comme tu nous appelles à vivre. Merci pour cette assurance que nous trouverons toujours ce soutien, cet appui auprès de toi. Merci pour ta patience envers nous, parce que tu continues à patienter et à faire preuve d'une immense bienveillance envers nous, malgré tous nos manquements. Et nous te louons pour cela à nouveau ce soir. Au nom de Jésus. Amen.